Chez Land Rover, nous avons tant d'aventures à raconter. Nous avons sillonné de nombreux pays. Nous avons participé à des films d'action, tout en partageant nos victoires. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un nouveau chapitre avec nos SUV hybrides FlexFuel E85. Choisissez le super éthanol E85 et réalisez des économies avec un carburant à 66 centimes le litre. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover pour bénéficier de conditions exceptionnelles sur nos modèles hybrides.
Land Rover.
Prix de vente moyen au 5 mars.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, en direct de l'Espace Cardin, théâtre de la ville, en effet, où nous sommes chaleureusement accueillis chaque dimanche. Les Bonnes Choses, c'est l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur. Un plat du jour et une madeleine à 12h15 aujourd'hui, une madeleine avec Matteo Caranta qui est en train d'installer les petits plats que nous a apporté l'une de nos invitées. Et Matteo qui traque chaque fois qu'il le peut, le souvenir gustatif d'une personnalité. Vous avez le micro, Matteo? Est-ce que vous pouvez vous en servir? Vous en avez plein les mains?
Oui, j'ai un micro dans une main, une cuillère dans l'autre, et puis déjà sur les doigts, une sauce qui a l'air délicieuse. Mais moi, j'ai rencontré cette semaine celui que l'on surnomme le prince des barytons, Stéphane Degout, qui m'a parlé d'une madeleine qui est assez paysanne, qui sent bon l'étable, on va dire.
À tout à l'heure, à 12h15. Donc, Matteo, je vous laisse installer cette merveilleuse recette que nous a apportée notre invité. Et un plat du jour en forme de focus sur un produit devenu un incontournable de la cuisine française, en guacamole, à l'apéritif, en tartine ou en salade. Un fruit qui s'étale partout, sur les réseaux sociaux et sur les tables, et dont on va se demander s'il est encore bon d'en manger ou si c'est un fruit défendu, tant sa culture intensive a des conséquences écologiques dramatiques. Alors peut-on continuer à manger de l'avocat? Et si oui, à quelles conditions? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités, ici avec nous, sur la scène de l'Espace Cardin. Mercedes Ahumada, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef traiteur, conférencière spécialisée dans l'histoire et la culture gastronomique mexicaine. Et avec nous également, Romain Méder, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Bonjour, j'en prie.
Romain Méder, qui ne sort jamais sans ses avocats, la preuve, vous en avez deux devant vous sur votre table. Vous êtes le chef du restaurant Le Plaza Athénée, fameux restaurant à Paris. On va commencer par un peu d'histoire peut-être, avec vous Mercedes Ahumada notamment, puisque l'avocat a conquis le monde dit occidental depuis quelques années maintenant, mais il est originaire d'Amérique centrale, c'est ça?
De la Mésoamérique, oui. La Mésoamérique est composée par le pays de l'Amérique centrale et jusque le Mexique, Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Et donc tout ça, c'est la civilisation préhispanique qui sont arrivées à s'établir.
Il y a à peu près 7-8 000 ans.
8 000 ans, entre 10 000 et 8 000 ans. Et les chroniques montrent qu'il y a des vestiges d'avocats, justement dans les territoires comme Manon, le Mexique, la ville de Puebla. Et là-bas, on trouve le premier vestige d'avocats. Et les gens, il y a 8 ans à peu près, ils mangeaient déjà l'avocat.
Il y a 8 000 ans, vous voulez dire, pas 8 ans.
Il y a 8 000 ans, c'est ça.
Et il était associé, l'avocat, alors, à une mythologie érotique. Racontez-nous ça.
Il y a une mythologie érotique parce que, déjà, le mot ahuacatl, les chroniques disent aussi que ça veut dire un testicule. Même en langue nahuatl, c'est, disons, un peu comme le mot argot, à l'époque, parce que il y a bien un mot nahuatl pour le testicule, non? Donc, c'est comme nous, maintenant, un peu de, et aussi, eux, pour la forme de l'avocat. Il disait que c'était les testicules. Donc, il y a une mythologie, il y a une princesse dans la culture toltèque, au centre du Mexique, là où il y a les pyramides de Tenochtitlan. Et ça, c'est là, on dit que ça, c'est le antécesseur de la culture aztèque. Et donc, il y a une mythologie où il y a une princesse du gouverneur, que c'est le Tlatoani. Et elle cherche, bon, lui, le père, il cherche à la marier. Sauf qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle ne trouve pas un homme qui ait les attributs qu'elle cherche. Et là, il y a un dieu d'Escatlipoca qui se rend compte, c'est le dieu de la guerre, et lui, il se rend compte un peu qu'elle cherche un mari, donc il décide de lui faire une petite blague, non? Et donc, il se déguise en homme et il descend. Et dans le marché qui est juste devant le palais, et il se déguise en vendeur de piment. Donc, vous voyez un peu déjà les jeux entre les avocats et le piment, parce qu'il arrive, moitié nu, avec le petit caleçon des Aztèques ou des cultures. Et bien sûr qu'il y a les avocats qui pendent. Et donc, il y a la petite princesse, elle regarde à travers la fenêtre, elle tombe amoureuse. Et elle commence à avoir des fièvres, des rêves. Et le père cherche ses vendeurs et il s'est marié. Et donc, elle s'est mariée avec le dieu Tezcatlipoca.
Vous connaissiez cette histoire, Romain Médère? Vous saviez tout ça?
Non, pas du
tout. Ses origines de l'avocat?
Ah non, je ne savais pas du tout, non.
On en apprend des choses, hein.
C'est la mythologie, et ça dans les codex, mais on ne peut pas savoir non plus.
Est-ce qu'on sait quand même, Mercedes Ahumada, comment on mangeait l'avocat il y a 8000 ans? Qu'est-ce qu'on faisait comme recette à partir de l'avocat?
Je pense, et par rapport aussi aux chroniques, que de la même façon qu'on le mange maintenant au Mexique. C'est-à-dire dans des sauces et comme fruits, de la façon la plus naturelle possible. Et donc, le guacamole existait déjà. Le guacamole, bien sûr, maintenant avec des variations, mais le guacamole veut dire sauce. Et ça vient du mot aguacate, bon, avocat, aguacate, en nahuatl, et moli veut dire en nahuatl, en langue nahuatl, sauce ou aliment. Mais les sauces au Mexique depuis, bon, dans toute la Mésoamérique depuis le temps, sauce, c'est un aliment. C'est-à-dire, il n'y a que des légumes, jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pour ça que l'avocat, il y a juste des légumes. C'est, à l'époque, c'était que l'avocat, la tomate verte. Et la tomate verte, on la connaît ici sous le nom de Physalis. Mais c'est ici une toute petite jaune. Au Mexique, c'était verte. Et avec la tomate verte, l'officialise verte, et c'est tout. Des piments, de l'eau.
Mais est-ce qu'au Mexique, aujourd'hui, hein, maintenant, 8000 ans après, est-ce qu'au Mexique, qui est le premier producteur mondial hein, d'avocats, c'est un plat qu'on mange tous les jours? Est-ce que c'est un indispensable de la cuisine mexicaine?
Non, l'avocat n'est pas un indispensable de la cuisine mexicaine. En fait, l'indispensable de la cuisine mexicaine, c'est le maïs. Et le guacamole accompagne, c'est une sauce pour accompagner le plat. Donc on peut le manger avec la viande, poulet, maïs, peu importe, mais c'est pour accompagner le plat. Et c'est toujours de façon coupée ou de façon un peu grossière le guacamole. Et non, quand je vivais au Mexique, je mangeais le guacamole, même si c'est un fruit qu'on peut trouver toute l'année, une fois par semaine, hein, pas plus.
Alors nous, on le trouve aussi toute l'année, mais il a quand même des saisons, hein, l'avocat. On devrait peut-être pas, selon par là où il nous arrive, justement, il y a le Pérou, il y a le Mexique, évidemment, mais un peu plus près de nous, l'Espagne. Vous êtes assez attaché, Romain Médère, au Corse, à l'avocat Corse.
Corse, oui, au territoire.
On connaît un peu moins, quand même. Vous le cuisinez depuis longtemps?
Moi, ça fait depuis que j'ai repris les cuisines du Plaza Athénée en 2014. Où on a rouvert, donc l'hôtel a été fermé pendant un an et on a réouvert ce restaurant sous la thématique de la naturalité. Donc la naturalité, c'est une approche culinaire assez radicale de la nature qui est basée sur un triptyque légumes, céréales et fruits et auxquels sont ajoutés des protéines animales issues de pêche responsable. Et donc pour nous, bien sûr, l'avocat fait partie de la palette d'ingrédients qu'on se devait d'utiliser parce que c'est, l'avocat c'est en hiver et donc c'est à peu près d'octobre à mars.
On y est encore là.
On y est encore.
C'est la fin.
On va arriver sur la fin, oui. Donc voilà. Donc et c'est vrai que c'est une façon pour nous également de montrer qu'on pouvait encore consommer de l'avocat, mais le consommer avec respect. Donc c'est ça.
Ce qui veut dire.
Ben, ce qui veut dire que comme alors aujourd'hui tout le monde parle de la tomate, etc. Mais l'avocat c'est pareil. L'avocat ça se mange pas en été. C'est l'avocat c'est un fruit d'hiver et il ne se mange qu'en hiver et c'est comme tous les légumes. À partir du moment où on sait d'où il vient, par qui il a été cultivé ou de manière sauvage, hein, mais par qui il a été ramassé, récolté, etc. Il faut pas s'en priver. Et après, ce qui tue tout à chaque fois, c'est l'excès. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des surproductions, sur des cultures intensives dans d'autres pays.
On commence à y arriver, Mercedes Ahumada, cette surproduction, notamment au Mexique, mais pas seulement. On est proche des 150 000 tonnes englouties en 2018, c'est-à-dire 35% de plus qu'en 2017, encore plus que les années précédentes. Ça fait 4-5 ans qu'il y a un vrai engouement, peut-être, mais encore un peu moins. Mais ici, hein, en France, les Français d'ailleurs sont en tête des avocats maniaques, je sais pas comment les appeler. Par exemple, deux preuves de cet engouement. Une marque célèbre de fast-food américain que vous reconnaîtrez aisément a récemment sorti un burger chicken avocado. Et la World Avocado Organization était partenaire du guide Michelin en 2019. Or, on dit que justement, c'est cette organisation qui est parvenue à faire bondir de 60% la consommation d'avocats en Europe, rien qu'en 2 ans, comme un puissant lobby. On voit bien que la surproduction pousse, et ça atteint des pays comme le Mexique, notamment, où c'est un vrai problème environnemental, puisque l'avocat a besoin de beaucoup d'eau, en même temps fait vivre un certain nombre de populations. Donc c'est compliqué comme question.
Effectivement, les dernières années, l'avocat était au Mexique et surproduit. Le Mexique est le produit un tiers de la production mondiale. Et l'État de Michoacán, qui c'est le seul État qui produit pour l'exportation, et produit les 85% de la production nationale. C'est-à-dire les 50% de la production pour exportation. Ça, c'est énorme. Parce que disons que pour produire 1 kilo d'avocat, il nous faut entre 600 et 1000 litres d'eau. Et ces avocats qui vont partir du pays d'une façon, ils ont pas mûr. Et quand on va les avoir ici, on risque d'avoir un produit qui n'est pas en bonne condition. Donc, les produits qui arrivent ici dans les commerces des 10 avocats, on va en trouver 2 qu'on peut manger. Ça veut dire que le gaspillage d'eau est énorme dans nos pays. Et actuellement, au niveau écologique, il y a un grand impact. Et on peut parler aussi de produits sociaux. Puisque chaque année, les cultives rassent entre 600 et 1000 hectares par année pour pouvoir arriver à produire tout l'avocat que le monde...
C'est ça, une déforestation en masse. Et de nombreux documentaires s'en fait l'écho depuis quelques années. Et le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'en est ému en août 2020. Est-ce que vous diriez quand même que les choses sont en train de changer? Est-ce que vous constatez que les choses sont en train de changer? Là, je pose la question à tous les deux, dans la façon de le consommer, dans la prise de conscience générale. Romain Médère.
Je pense... Je compare l'avocat à l'image de la tomate. Hein. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a depuis quelques années, on commence à marteler le message de dire il ne faut plus manger de.
En même temps qu'il y a un engouement, une prise de conscience qui accompagne par rapport à ça.
Il ne faut plus manger de tomates en hiver, mais c'est la même chose pour l'avocat. Il faut manger l'avocat en hiver. Mais je pense que ça va. En tout cas, je l'espère. Et moi, je milite pour ça. Je pense que les gens vont comprendre, vont intégrer ce message et ne plus consommer de l'avocat.
N'importe comment. N'importe quand, votre message.
Etc., ouais.
Mercedes Ahumada.
En France, C'est un peu, je vais parler comme mexicaine quand t'arrives dans un pays qui connaît pas. Quand je suis arrivée en France, je fus, et la façon dont on mange l'avocat ici, grâce à ses propriétés, pour manger, cosmétiques et tout, c'est intéressant. Et me trouver un restaurant qui est dédié à l'avocat, ça m'a interpellée un petit peu. Parce que c'est comme si nous, au Mexique, on avait un restaurant dédié à la banane, non? Par exemple. Et puisque c'est un fruit. Et je pense que les gens ont commencé à comprendre qu'il faut pas consommer l'avocat. Et par contre, je parle aussi au niveau personnel, pour la cuisine mexicaine, il y a un boom en ces moments. Et vous venez de le dire, l'hamburger qui est maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais que c'est fait avec de l'avocat. Et les booms mexicains est aussi en train d'attirer encore les gens à ces produits que c'est le guacamole, non, à ces plats que c'est le guacamole. Donc là maintenant, je vois des guacamoles un peu partout.
Absolument.
Et ça, c'est aussi un peu, il faut travailler pour faire conscience aux gens.
Et vous nous donnerez la recette du guacamole, puisque je crois qu'il y a autant de recettes que de guacamole et que d'avocats, c'est-à-dire à peu près 200 variétés dans le monde, mais il y a quand même une recette qui a la cote, et ce serait la vôtre, Mercedes Ahumada. On vous retrouve dans quelques minutes, on va écouter la Madeleine par Matteo Caranta.
L'avocat. S'il est bien mûr, n'hésitez pas à consommer.
Matteo Caranta, ça n'est pas de l'avocat qu'on va parler dans la Madeleine, c'est bien d'autre chose.
Oui, on part très loin de l'avocat. Puis d'abord, moi, je vous le disais tout à l'heure, j'ai rencontré l'artiste lyrique Stéphane Degout, vainqueur des victoires de la musique classique en 2019, année où il avait enregistré Lessons in Love and Violence du compositeur George Benjamin dans le rôle du King. Eh bien, c'est dans ce rôle que vous pouvez l'écouter depuis ce vendredi 26 février 2021, puisqu'il l'a repris au Liceo, l'Opéra de Barcelone, alors justement que se tenaient à Paris les victoires de la musique. Vous le voyez, la boucle est bouclée. Et bien pour ça, Madeleine, il s'agit également d'une histoire de boucle, puisque c'est en préparant un riz au lait, bien loin de l'avocat, que les souvenirs de sa grand-mère lui sont revenus, des souvenirs précieux pour ses recettes futures.
Ma Madeleine, c'est un gâteau de riz, parce que le gâteau de riz était l'un de mes desserts préférés, et c'était un des desserts que ma grand-mère faisait quand on lui rendait visite le week-end. Mon père appelait le matin pour dire qu'on venait l'après-midi et il fallait qu'on arrive à une heure précise. On mettait les pieds sous la table, tout simplement, et ma grand-mère sortait du four ce gâteau de riz avec une certaine fierté. Elle était jamais contente, il était soit trop cuit, soit pas assez doré, etc. Et aussi, c'était toujours de la faute de mon père qui n'était pas arrivé à l'heure aussi. Et chez ma grand-mère, on allait chercher le lait le matin à la ferme en face. Donc ma grand-mère nous donnait un bidon d'un litre et demi qui était en étain, je crois, qui sentait pas très bon pour les enfants qu'on était, parce que ma grand-mère le lavait jamais, elle le rinçait seulement. Et on allait chercher le lait, on donnait le bidon et une pièce de 2 francs, et le paysan sortait d'une immense cuve qui était d'ailleurs dans l'écurie, dans l'étable, parce que les vaches étaient à côté, du lait qui était encore tiède, qui avait été trait le matin même, et remplissait notre bidon. Et ensuite, on avait la mission de revenir à la maison, alors c'était à 50 mètres, mais sans faire bouger le bidon, parce qu'il y avait un autre moment qui était presque une cérémonie, qui était l'écrémage du lait. Et ma grand-mère posait le bidon de lait au milieu de la table, et on devait attendre encore que le lait repose, et puis ensuite elle l'écrémait avec une cuillère, elle prenait la crème, la mettait dans un autre récipient. Et après, c'était aussi un autre moment génial, parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir boire le lait. On arrivait en général quand le gâteau était cuit, mais j'ai souvent vu ma grand-mère le faire, et c'était aussi alléchant, parce qu'il y avait l'odeur du lait chaud, du sucre, etc. Donc le moment où le plat sort du four, et la cuisine est envahie par l'odeur de caramel, de lait, on voit ça bouillonne encore un petit peu à la surface. C'est couleur caramel, donc on voit les grains de riz, on voit le lait qui a fait un peu une peau, etc. Et puis il y a le moment où ma grand-mère plonge cette cuillère en bois dans ce plat, et là c'est encore plus de fumée, c'est encore plus de couleur. Il y a le lait qui est presque une crème maintenant, épaisse, et qui coule un peu de la cuillère, il y a tout ça. Et il y a ensuite le moment de déposer cette part dans l'assiette, et d'y plonger nous-mêmes une petite cuillère, qui est aussi un moment précis parce qu'il y a la texture qui fait que la cuillère s'enfonce pas très facilement. Et il y a ce bruit spécifique aussi de la cuillère quand on enfonce dans un plat chaud. Et puis il y a le moment où on le met dans la bouche et là on se brûle et on se fait disputer parce qu'on est allé trop vite.
à la bouche, hein, de son gâteau de riz.
Incroyable.
Bon, Romain Médère, justement, à propos de gâteau de riz et donc de dessert, est-ce que l'avocat, on peut le travailler en dessert? C'est quand même un fruit, mais on n'a pas l'habitude de le manger ici en France, en tous les cas, en fruit. Est-ce que vous, vous le travaillez en dessert? Les Brésiliens le font, les Philippins le font, les Balgaches le font. Est-ce que les
Français
le font?
Non, moi, je le travaille pas spécialement en dessert. Parce que je trouve que quand il est mûr, déjà pour moi, il a une petite note sucrée. Et ce que j'aime dans ma cuisine, c'est faire découvrir le produit tel qu'il est. Je veux pas l'accompagner, le déguiser par lui rajouter du sucre et des choses supplémentaires. Donc pour moi, en dessert, j'ai du mal à le visualiser, à l'imaginer. Donc je ne suis jamais rentré sur ces terrains de jeu.
Vous nous en avez apporté deux, mais oui. c'est un peu les deux mêmes, on dirait.
Oui, c'est
deux
mêmes.
Verres à la police, alors que nous on connaît deux variétés hein, quand même. Hein, ici, en France, je regarde scrupuleusement. Mercedes Saumada, parce que je parle sous votre contrôle, mais on connaît le verre lisse et on connaît le marron foncé, plus grumeleux.
Noir.
La variété
As. C'est la variété As qui nous vient plutôt de Californie, celle-là, voilà. La plus sombre, c'est ça. Et au Mexique, on a quoi, Mercedes Ahumada, comme variété? On a les deux, on a quoi?
En fait, il y a trois races, que c'est la race mexicaine, la antillaise et la guatémaltèque. Et donc, là, à partir de là, il y a à peu près 400 hybrides. Et de ces 400 hybrides, bon, après la domestication et les variétés déjà produites que le paysan produit, il y a la As au Mexique, il y a le Mexicana, plusieurs, il y en a plusieurs au Costa Rica, aux États-Unis.
Nous, on en a que deux, hein. En fait, en France,
il y en a plus de deux. Oui, oui, il y a du Bacon, il y a du As, mais vous savez qu'en Corse, il y avait la plus grosse collection d'avocats au monde, à l'INRA. Et donc voilà, donc il reste.
Vous coupez
quelques...
pas parce que vous continuez de parler et vous coupez votre avocat
non, ça
là,
va,
avec
ça
votre
va.
Petit couteau. Bon, vous êtes habitué, hein, vous êtes un chef.
Donc oui, mais ça c'était un As.
Celui qui a la peau un peu plus grumeleuse.
Oui, oui. Celui-ci est vert, donc j'en ai apporté deux. Il y en a un vert et un mûr. Et donc moi, je m'amuse à travailler les deux.
Comment on voit s'il est mûr? Quand il est un peu mou?
Ouais, c'est quand il est mou. C'est quand il est...
Tout simplement.
Oui, il est mou, tout simplement. Et alors c'est ça, c'est vrai que l'avocat qu'on trouve dans le commerce généralement, enfin quand je dis le commerce dans les grandes surfaces, quand il est mou généralement, enfin on a une chance sur deux qu'il soit noir,
oui,
qu'il soit abîmé, etc.
Oui.
Donc là vous voyez il est, enfin il est mou, il est vert et enfin en tout cas la chair reste intacte. Et,
il est petit aussi.
Et ils sont petits parce qu'ils mettent du temps à pousser. Ils sont sur la côte est de la Corse. Ils sont à l'abri du vent. Ils sont l'avocat n'aime pas trop
le voyage.
Le voyage, ça c'est sûr, mais n'aime pas trop le vent, n'aime pas trop l'excès d'eau. Bizarrement, contrairement à la grosse surproduction qui demande beaucoup d'eau, l'avocat qui est planté dans un milieu naturel n'aime pas trop l'excès d'eau, n'aime pas les gelées trop fortes. Enfin voilà, donc on arrive à voir que c'est un joli produit quand on le coupe.
Et est-ce que c'est un produit excitant pour un chef? Est-ce qu'il se cuisine, l'avocat?
Alors oui,
moi j'ai
cuisine.
Essayé une tarte à l'avocat un jour. C'est-à-dire que j'ai fait cuire l'avocat, elle était très belle, mais elle était immangeable.
Non, mais en fait...
J'en ai déduit que ça ne se cuisait pas.
Alors, habituellement, on ne le cuisine pas. Alors moi, je le cuisine parce que j'ai travaillé, déjà pour Alain Ducasse, à l'époque, à l'île Maurice, et j'ai toujours cette image de la papaye. À l'île Maurice, on mangeait la papaye verte en légumes, on va dire, et la papaye mûre, on la mangeait toujours en dessert. La papaye mûre, on la mangeait crue, et la papaye verte, on la cuisait. Et donc, moi, je m'amuse toujours avec ces produits à différents stades de maturité. Et en fait, quand un produit est vert comme celui-ci, l'avocat pas mûr, donc, je m'amuse à le cuisiner, et il a une amertume qui est assez intéressante. Et je le sers presque toujours avec de l'avocat mûr, qui lui est plus gras. et plus doux. Et donc, ce qui va contrebalancer cet équilibre de saveur. Donc, pour moi, c'est un produit qui est très intéressant.
Et vous faites, par exemple, une recette de potage de légumes à l'avocat que vous nous avez gentiment donnée, qu'on a mise sur le site des bonnes choses, hein, sur franceculture.fr. Oui. Assez donc, simple à réaliser.
Oui, ça c'est une recette qui est issue de mon livre Naturellement Libre. Voilà, c'est une recette qu'on peut faire à la maison, mais donc c'est n'importe quel potage. Mais vous savez, à la maison, on rajoute toujours une cuillère de crème ou du gras dans le potage. Donc là, je me suis dit pourquoi ne pas rajouter un gras végétal, quoi. Et donc, si vous utilisez un avocat mûr ou très mûr, ou si par malchance vous avez mal choisi votre avocat et qu'il est un peu abîmé. Eh ben vous l'écrasez sans rien, hein. Vous l'écrasez sans rien et vous l'ajoutez dans votre soupe et en fait ça vous apporte ce gras naturel végétal qui va apporter un peu de rondeur à ce potage, donc c'est intéressant.
Je me tourne vers la chef traiteur mexicaine Mercedes Ahumada. Comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre, la façon qu'a Romain Médère de cuisiner l'avocat? Est-ce que ça correspond à ce que vous pouvez cuisiner vous, la façon dont vous traitez ce fruit?
C'est très intéressant et ça donne envie.
C'est déjà ça.
Oui, ça donne envie. Je vais essayer. C'est vrai que je suis cuisinière traditionnelle. Donc, c'est ce que je fais. Une cuisinière traditionnelle, c'est comme un interprète, en fait. Et on a des musiciens, auteurs et interprètes. Une cuisinière traditionnelle, c'est exactement la même chose. Elle interprète des recettes anciennes. Donc, des recettes vraiment, vraiment depuis 1000 ans pour pouvoir donner au chef et les astuces et les techniques pour pouvoir arriver à ce genre de plats. Et donc, je cuisine pas l'avocat, je le fais de façon traditionnelle, et justement pour le montrer, pour le faire connaître, surtout à dehors le Mexique, et je l'utilise comme un fruit et en accompagnement.
Eh ben, par exemple, vous nous avez apporté, à votre tour, cette fois-ci, vous l'avez pas seulement posté, vous l'avez apporté, une recette traditionnelle, ce sont des haricots enrobés de feuilles d'avocat.
Parfumés, c'est des haricots parfumés à la feuille d'avocat. Donc, j'ai pas pris d'avocat, parce que on utilise tout dans l'avocat. Et c'est ça que j'aime et que j'adore faire découvrir au chef, ce petit goût des feuilles, pas seulement des fruits, mais de tout l'arbre entier. Et donc, j'ai rapporté une recette déjà ancienne où il y a que 3 ingrédients et que c'est le maïs, l'haricot et la feuille d'avocat. Et c'est comme ça que eux ils mangeaient. Et c'est comme ça qu'on mange maintenant dans les champs. C'est comme ça qu'ils mangent les paysans quand ils font les travaux dans la terre pour produire nos aliments. Et donc c'est parfaitement équilibré puisque il y a les protéines. Et il y a les féculents et il y a du calcium, parce que bon, ça c'est un autre sujet, toute la nixtamalisation qu'il y a derrière la tortilla.
Mercedes Ahumada, il nous reste 1 minute pour cette fameuse recette originelle du guacamole. Alors, comment fait-on un bon guacamole?
Les guacamoles, donc il nous faut de l'avocat mûr, il faut l'écraser, ajouter du jus de citron, un peu de sel et coriandre ciselé, oignon ciselé et tomate.
Huile d'olive?
Rien du tout.
Pas besoin.
Du sel, pas de poivre, seulement ça. C'est tous ces 5 ingrédients et c'est tout.
Et c'est délicieux. Vous confirmez, vous validez, vous le faites comme ça, vous le faites pas, Romain Médère, vous allez le faire?
Alors, je vais le faire. Non, moi, je m'aventure pas sur des terrains dont je ne suis pas, je
que
suis
vous
pas
ne
familier.
Que vous ne
je
méprisez
maîtrise pas.
Pas,
ouais. Exactement, mais je vais essayer, ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce midi. Peut-être peut-on citer au moins un livre que vous avez coécrit avec Alain Ducasse et Jessica Préapato, le livre de la naturalité, j'ai presque envie de dire le grand livre de la naturalité, chez Ducasse Édition qui est apparu en 2020 et on ira voir de plus près à quoi ressemble la naturalité. Et puis vous apparaissez dans une nouvelle bande dessinée qui s'intitule Sacré Chef, voyage fabuleux au cœur des plus grandes cuisines françaises. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Jean-Christophe Francis à la réalisation et tous nos techniciens, nos techniciennes du jour aussi bien de Radio France que du Théâtre de la Ville, Johan Vincent, Yvan Charby, Tanguy Le Corneau, à la production Dominique Allard, Francesca Fossati, Wojciech Noiret. Eh bien, nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.